Des hameaux, des villages, des villes, des métropoles constituent des lieux de vie humaine intense qui s'étendent. Des espaces de nature et agricoles sont évidemment consommés pour accueillir de nouvelles populations et répondre à leurs besoins. Ce modèle d'urbanisation est aujourd'hui questionné. La pandémie de Covid-19 a rebattu les cartes et le regard sur la ville a changé vers un besoin de davantage de verre, d'espace de respiration. Les effets du changement climatique et de nos impacts sur la biodiversité amplifient également la nécessité d'aménager le territoire autrement. On parle de nature en ville, mais se pose-t-on la question de la ville dans la nature? Je m'interroge ainsi dans cette nouvelle émission Urbaflore sur la place et l'importance de la flore dans l'espace et face à notre modèle d'aménagement du territoire. Comment les plantes se trouvent ici et pas ailleurs? Pourquoi et comment les humains cherchent-ils à les protéger? Comment évolue l'urbanisation? D'après quelles règles? Et quelle place y a-t-il pour l'environnement?
Et c'est ce que tu vas développer aujourd'hui, Jérôme. Bonjour.
Bonjour, bonjour Lisa.
Jérôme Garcia, chargé de conservation pour le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, qui anime chaque mois cette émission Urbaflore aujourd'hui, flore et urbanisme, concilier nature et emménagement. Jante Flore, que faites-vous ici?
Les plantes, au sens large, occupent la planète Terre depuis environ 2 milliards d'années. Par le processus de photosynthèse, elles sont à l'origine de la production de dioxygène qui a permis le développement progressif de la vie à la surface du globe. C'était l'objet d'une précédente émission Urbaflore. Les plantes sorties des océans ont évolué à partir des algues, jusqu'aux grands arbres en passant par les mousses et les fougères. À partir de là, les plantes ont modelé la planète, son sol, son air, son climat, son relief. Elles ont construit les conditions de leur maintien, mais aussi de leur évolution et de leur spéciation. Elles ont participé à leur propre diversification, avec le coup de pouce de la dérive des continents, pour coloniser et occuper des espaces où elles avaient les meilleures chances de survivre, parfois en solitaire et pionnière, souvent en équipe et en communauté. Elles ont survécu à des catastrophes planétaires, aux périodes glaciaires et aux réchauffements globaux, en s'adaptant, en évoluant, en développant nécessairement des capacités de résilience et de migration, et ce, bien avant l'arrivée des premiers hominidés. Certaines plantes se sont spécialisées au point de ne pouvoir survivre que dans un type de sol, un climat, et avec des compagnons très particuliers. C'est le concept de niche écologique. Ces plantes ont ainsi développé ce qu'on appelle des préférences écologiques et ont trouvé une place unique sur la planète et localement, sur le territoire qu'on connaît. Une plante spécialisée est donc naturellement et spontanément là où elle est, car son histoire a fait qu'elle y a trouvé les conditions préférentielles à sa survie et à son maintien. Ailleurs, ses chances de survie s'amenuisent. Notre développement sur leur espace engage donc notre responsabilité.
Pourquoi les humains protègent-ils les plantes?
Ok, donc on a vu que les plantes, elles sont là parce qu'elles s'y trouvent bien. Ok, elles étaient là avant nous. Ok, elles nous ont préparé le terrain, ok, elles nous sont essentielles pour vivre, ok, elles périclitent à cause de nous, ok, elles ont survécu à tout un tas de catastrophes, ok, elles devraient survivre, quoi que nous fassions et devenions. Mais alors, pourquoi se préoccupe-t-on de l'environnement, du climat, de la biodiversité, de la faune, de la flore? Pourquoi des lois et interdictions viennent les protéger et nous limiter dans nos activités si le végétal, mais pas que, est naturellement voué à s'adapter et à survivre? Ce sont des questions légitimes auxquelles je vais modestement tenter de répondre, mais avant, je voulais juste rappeler que la loi qui protège certaines espèces de plantes, c'est l'article L411.1 du Code de l'environnement, et qui fixe un certain nombre d'interdictions, dont la destruction, le prélèvement, la mutilation, le transport, etc., de végétaux qui appartiennent à des listes. Alors, ce sont des listes nationales, régionales ou départementales qui précisent justement ces espèces. La liste nationale, d'ailleurs, elle est en cours d'actualisation, elle devrait paraître début 2026. Les espèces de cette liste, ces espèces de flore de cette liste, répondent à divers critères, dont des indices de rareté, des menaces, le caractère endémique de l'espèce ou son rôle clé dans un écosystème. Voilà, tous ces éléments font que ces espèces sont protégées. Pour en revenir à la question de à quoi ça sert de protéger la nature si elle s'adapte quoi qu'on fasse, on peut simplement se rappeler du premier sens d'une règle ou d'une loi. C'est d'organiser la vie humaine au sein de sociétés. Cette loi, elle existe pour que nous puissions tous vivre ensemble, en sécurité, dans un environnement sain et de qualité, de manière égalitaire et cohérente et selon une vision commune. En bref, les lois posent théoriquement les conditions de la survie de notre espèce. Elles dépassent l'individu. Une loi relative à l'environnement protège les plantes, certes, mais elle nous protège également de notre propre incapacité à nous rendre compte que nous sommes tous liés et qu'en ne respectant pas notre environnement, nous ne nous respectons pas nous-mêmes. Sur ces mots, je vous invite à une petite pause musicale en écoutant Mélodrama de Diziz et Théodora.
Blessé, baisé, végété dans le TGV. Dégoûté, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel. Ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle. Tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi. Tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mêlé mélodrame. Ça fait si mal, oh, que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mêlé mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on se raccompagne.
Surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine. J'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime à un homme pas deux. Tu n'as le plus l'hiver. Je suis dans un étoile mais je repense à hier. Galère IRER. C'est ton pied, c'est mon pied. Pourquoi tout foutre en l'air? Je suis comme ce son.
Du mal. Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un con dans ce mélodrame. Ça fait si mal, donc ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'avais vraiment été ta valentine.
C'était Mélodrama, la sélection de Jérôme Garcia. Pour cette émission Urbaflore, l'émission du Conservatoire Botanique National des Pyrénées de Midi-Pyrénées. On est retour dans cette émission où on parle donc de flore protégée et d'urbanisme. On vient d'aborder ce qui fait qu'une plante est là où elle doit être et que les lois qui en protègent certaines rappellent que la nature et l'espèce humaine sont fragiles et méritent qu'on y soit attentif avec respect, humilité et bienveillance. Mais Jérôme, quel est finalement le lien entre les plantes et l'aménagement du territoire qui est le sujet de cette émission ?
Oui, j'allais bien y venir, mais il était important, me semble-t-il, de recontextualiser ces notions de vivre ensemble et de respect réglementé du vivant. L'organisation spatiale des communautés humaines a été bâtie sur plusieurs éléments, des facteurs naturels, l'accès à certains sites, éviter certains risques, le relief, le climat, l'accès à des ressources, en lien avec la possibilité, bien sûr, de se nourrir, de s'abriter, de s'habiller ou d'échanger, on fait qu'on est allé sur certains sites et pas d'autres. Il y a ensuite des facteurs économiques qui sont un peu plus récents. La présence de sites industriels, la possibilité de pouvoir se déplacer à travers des axes de transport. L'attractivité de certaines villes a fait qu'on s'est orienté vers des lieux plus que vers d'autres. Et enfin, il y a des facteurs politiques, l'aménagement du territoire ou des normes de construction. On bâtit les villes d'aujourd'hui. Dès lors, l'espèce humaine a découvert, transformé et colonisé des territoires sans trop se préoccuper de la conséquence de ses activités sur l'existant. Exploitation du bois, chasse, pêche, élevage, agriculture, puis, au XXe siècle, urbanisation intense et débris agricoles. Ces activités sont venues progressivement mais durablement modifier les paysages, les écosystèmes et leurs équilibres écologiques. Avec la prise de conscience de nos actions sur l'environnement, avec une amélioration des connaissances du fonctionnement de la biodiversité et du climat, avec une approche anticipée de notre développement, nous avons pris le parti de modifier notre manière de vivre, le territoire. Des principes, des objectifs et des lois sont venus bercer au fil du temps les actualités et le quotidien des Français à travers différents codes législatifs. Parmi les plus récents, le Code de l'urbanisme, qui date de 1973, sert à réglementer et à encadrer la construction et l'aménagement du territoire. Il se traduit par l'élaboration et la mise en œuvre de documents d'urbanisme, comme le Plan local d'urbanisme, ou PLU, qui est né de la loi SRU de 2000 et qui doit aider la collectivité à penser l'avenir et l'accueil de nouveaux habitants sans dégrader la richesse de son patrimoine. Le PLU est donc un plan et un projet organisant l'aménagement du territoire de demain. Via une carte des zonages, les zonages, des espaces qui sont soit A pour agricole, N pour naturel, AU pour A urbanisé ou U pour urbanisé. Donc ces zonages s'ajoutent à un règlement. C'est ce qui fait le PLU et c'est ce qui fait que le PLU est un outil qui doit anticiper et limiter les impacts de l'urbanisation et maintenir des continuités écologiques qui soient fonctionnelles entre des hotspots de biodiversité. Les étapes d'évaluation environnementale qui sont réalisées en amont de la conception du PLU, elles sont essentielles pour identifier et rechercher à relier les parcelles qui ont des enjeux et qui abritent notamment de la flore ou de la faune protégée ou des habitats précieux comme les zones humides. Cet état des lieux doit se baser sur des données bibliographiques du système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel, qu'on appelle le SINP. Cet état des lieux doit aussi se baser sur des inventaires et des prospections de terrain et d'autres études naturalistes comme les atlas de la biodiversité communale qu'on appelle aussi les ABC. Dans le PLU, ces espaces doivent ensuite bénéficier d'un zonage dont j'ai déjà parlé et de classements qui soient appropriés pour intégrer ces enjeux de biodiversité. Il y a également le Code de l'environnement dont j'ai parlé précédemment qui fête cette année ses 25 ans. Il a pour origine la loi relative à la protection de la nature qui date du 10 juillet 1976 et qui initiait déjà l'idée de regrouper des lois liées à l'environnement. Il sert à consolider les réglementations environnementales et à répondre aux enjeux écologiques modernes. C'est donc lui qui précise les interdictions liées aux espèces végétales protégées regroupées dans les listes dont j'ai déjà parlé. Ces deux codes viennent encadrer la prise en compte de la biodiversité végétale dans la façon d'aménager l'espace. L'idée est bien de conserver une place pour tous afin que les fonctionnalités écologiques du territoire restent efficaces, voire soient améliorées et que la biodiversité puisse continuer à nous apporter un ensemble de services vitaux. La limitation des inondations, l'épuration et la qualité de l'air, de l'eau et des sols, la réduction du dioxyde de carbone, jouer son rôle de tampon climatique, apporter une qualité alimentaire, de santé et de loisirs.
Et le programme Urbaflore dans cette histoire ?
Alors le programme Urbaflore, qui est animé par le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, comme vous le savez tous, cherche à sensibiliser les décideurs, les élus, les porteurs de projets à ces enjeux de flore et d'habitat protégés en amont des aménagements et donc en phase de conception et de modification des plans locaux d'urbanisme ou des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, les PLUI. Il apporte un appui à l'identification et à la prise en compte de la flore patrimoniale sur les territoires de la collectivité en complétant les données bibliographiques, en conseillant et en participant à des ateliers, à des groupes de travail ou à des réunions. Bien sûr, préserver la biodiversité est beaucoup plus serré en espace très urbanisé alors que la marge de manœuvre paraît plus souple en zone périurbaine, qui est plus riche en espace naturel. Mais la pression d'urbanisation y est pourtant plus forte, augmentant le risque de dégradation de la biodiversité et donc la nécessité d'être davantage présent. Notons aussi la difficulté de faire marche arrière si la présence de flore protégée a été négligée lors de l'élaboration d'un PLU, Car si le code de l'urbanisme dit « OK pour aménager », celui de l'environnement interdit bien toute construction en l'absence de mesures d'évitement, de réduction ou de compensation. Mais ça, c'est une autre histoire. Ici s'achève cette émission Urbaflore, dédiée à la place de la flore protégée dans l'aménagement du territoire, dans laquelle vous aurez entendu que protéger les plantes et les conserver dans leur milieu, ce n'est pas freiner l'avenir, mais bien l'enrichir. Merci pour votre écoute, et je vous propose de nous retrouver le mois prochain avec un nouveau thème de découverte, de réflexion, d'ouverture, pour être plus à l'aise avec le monde, sa richesse, notre chance. Merci encore pour votre attention, et si vous avez des questions ou des sujets botaniques que vous aimeriez que j'aborde, écrivez-nous via le formulaire de contact du site internet de CFM Quélus. D'ici là, ouvrez l'œil, restez curieux, posez-vous des questions et partagez-les. Et bonne fête de fin d'année à tous et à toutes.
Et à toi aussi, Jérôme, et un grand merci pour cette émission Urbaflore que tu animes chaque mois depuis le Conservatoire Botanique National des Pyrénées, de Midi-Pyrénées. Une émission qu'on peut retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr. On se voit en janvier, salut.
On se voit en janvier, merci, à bientôt.